Donc, merci d'être venu pour cette thématique un petit peu bizarre des bruits et des sons. Et la question, est-ce que, en tant que linguiste, est-ce que les sciences du langage devraient s'intéresser à ces sons et bruits non lexicalisés? Et si oui, pourquoi? Alors, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance... Voilà, ben, vous avez tous reconnu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour un peu plus de variété... Voilà. Donc, mon sous-titre, est-ce que la linguistique, est-ce que les sciences du langage devraient-elles s'occuper de ce type de bruit et de son? Eh bien, évidemment, une question rhétorique, parce que sinon, vous ne m'écouterez pas ici pendant trois quarts d'heure. En même temps, ce n'est pas tout à fait une question rhétorique, elle est quand même sérieuse, parce que, à mon avis... la réponse à la question dépend de la conception que nous avons des sciences du langage et aussi de la conception que nous avons du langage. Alors, si on part de l'idée que le langage est un outil, donc un moyen qui nous permet d'échanger avec les autres, on arrive à une deuxième question, celle de la fonction de ces bruits et sons. Alors, comment ils nous permettent d'échanger avec les autres, ou est-ce qu'ils nous permettent d'échanger avec les autres? Donc, dans un premier temps, la première chose qui passe par la tête quand on pense à ça, c'est que ces bruits et sons sont des expressions d'émotion, des expressions d'état affectif. Un petit peu comme ça. Attention, l'exemple est en allemand. Donc j'espère que vous avez des bonnes connaissances. Ici, on a bien, on peut dire, on a une expression d'émotion, même si c'est quand même à mettre un peu en question, on verra ça tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait de notre Tarzan de tout à l'heure? Parce que si vous connaissez Tarzan, n'importe quel des différents films, vous vous rappelez peut-être que ce cri n'est pas, ou en tout cas pas toujours, une expression émotionnelle. Et en même temps, c'est cette question d'expression d'émotion. Est-ce qu'on peut savoir, comment on peut savoir qu'il s'agit vraiment d'une émotionnalité? Donc, par exemple, le cri de la peur n'est pas vraiment lié, enfin, il n'est pas lié de la même façon à la peur que les mains moites, par exemple. Ou moi, quand je crie un aïe en cours de phonétique allemande parce que la prononciation me fait mal, mes étudiants rient. Et je pense que, je pars du principe que s'ils pensaient que j'ai vraiment mal, ben, ils ne riraient pas. Hein? Enfin, je l'espère en tout cas. Donc, cette histoire de l'émotionnalité, c'est un peu curieux, c'est un peu bizarre, c'est un peu à mettre en question, mais pour l'instant, on le prend comme ça. Alors, partons dans un premier temps sur cette idée d'expressivité et d'émotionnalité. Il y a un psychologue allemand qui, à la fin du 19e, début du 20e siècle, a essayé de conceptionnaliser ces cris. Il les a appelés Naturlaut, les cris de la nature, et il a dit que ce sont des fossiles d'un état pré-langagier. Alors, cela vous rappelle peut-être quelque chose de vos cours de philo d'antan. Donc, un certain philosophe français pour qui ces exclamations émotionnelles étaient à l'origine du langage. Bon, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qu'on pourrait discuter encore pendant longtemps, mais on va revenir un peu sur Wundt, parce que ce qu'il est intéressant, ou la raison pour laquelle je le mentionne aujourd'hui, c'est qu'il utilise un terme que nous connaissons en tant que linguiste, le terme de l'interjection. Il parle, d'ailleurs ça date de Wundt, la distinction entre interjection primaire, interjection secondaire. Et pour lui, les cris de la nature dont il a parlé sont des interjections primaires. Alors, au cas où que vous ne me croirez pas, là, vous le voyez. Hein, donc, ça, c'est l'extrait du livre. Pour lui, c'est le chapitre sur les interjections primaires et secondaires. Et dans ce chapitre-là, il parle des fossiles isolés issus d'un stade pré-langagier pour les interjections primaires. Voilà. Le terme de l'interjection est assez courant, reconnu, utilisé en sciences du langage et en linguistique depuis la grammaire latine, hein, donc la grammaire grecque ne l'a pas connue, en tout cas pas à ma connaissance. Ces sons-là ont été classés comme des adverbes. Mais à partir de la grammaire latine, on utilise le terme d'interjection en grammaire avec des caractéristiques à la fois formelles et fonctionnelles. Donc, description fonctionnelle, hein, expression de divers états de l'âme, et description formelle, interposée, jetée entre les éléments. Depuis, il y a bien évidemment de nombreux travaux, mais finalement pas si nombreux que ça. Et si on considère deux définitions linguistiques, on trouve des aspects similaires qui rejoignent un peu la définition de la grammaire latine. Il s'agit de mots, donc les interjections font partie du système langagier, et ils ont utilisé pour exprimer une émotion, donc ils sont utilisés dans le discours avec une fonction particulière. Bon, il y a bien évidemment des tentatives de description un peu plus précises. Alors, il y en a de différentes façons. Là, je repris uniquement un petit peu ce qu'on fait dans la tradition française. Il y a le terme de mot-phrase, de bali, de phrasillon, de locution formulaire. Et il y a aussi des tentatives de définition qui... comme celle de Bresse qu'on voit ici, qui insiste qu'il ne s'agit pas d'une unité lexicale, mais d'une unité syntaxique. Mais toutes ces définitions, tous ces travaux n'arrivent pas à résoudre les immenses problèmes que soulève cette catégorie. Donc c'est une catégorie très hétérogène. Alors, vous vous rappelez peut-être tout à l'heure la définition de Ameca. Little words ou non-words. Voilà. Word ou non-word. C'est ça la question. Donc, catégorie très hétérogène avec des éléments plus ou moins lexicalisés et plus ou moins conventionnalisés. C'est-à-dire, on a un continuum. Ces éléments sont plus ou moins liés à un système langagier et ils sont plus ou moins regroupés avec d'autres éléments comme des onomatopées ou des idiophones ou des marqueurs discursifs, et les trois points indiquent qu'on pourrait mettre d'autres. Alors, si on regarde tout ça un petit peu en détail, je ne sais pas si les véritables cris de la douleur sont les mêmes en France ou en Allemagne, mais d'une manière un peu plus retenue, ça fait « aïe » en France et ça fait « au » ou « aua » ou « ouch » en Allemagne. Donc, ils sont plus ou moins liés à un système langagier. Alors, et un petit peu plus sérieusement, si on regarde des recherches qui ont été faites à l'Institut Max Planck sur 10 langues différentes, on voit que les sons utilisés ne sont pas les mêmes Enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, c'est sur le tableau à gauche. Donc, il y a des similitudes, évidemment. Hein, ce sont des voyelles antérieures centrales ou des consonnes glottales, oui. Mais c'est quand même pas identique, justement parce que c'est lié au système phonologique de la langue en question. Voilà. On avait dit aussi qu'ils sont plus ou moins, enfin moi j'avais dit, ils sont plus ou moins liés à d'autres types de mots, où on ne sait pas vraiment si ce sont des mots ou des fonctions, entre parenthèses, notamment des onomatopées. Alors là, je me permets de prendre un exemple d'un texte écrit, pour changer un peu les différents bruits, un extrait des lettres que le soldat Charles Bruno a écrit pendant la Grande Guerre. Et cet exemple montre quelque chose de très intéressant, parce qu'on a plusieurs onomatopées de suite. Et ces onomatopées montrent un développement. Enfin, ça, c'est un peu moins drôle, hein. C'est le bruit des avions, la bombe qui est lancée et l'explosion de la bombe. Les interjections sont souvent décrites dans ce continuum entre « showing » et « saying », ou entre « dire » et « montrer ». C'est notamment Ducrot qui a essayé ça, mais les onomatopées montrent quelque chose. Ici, les bruits, les onomatopées montrent le bruit de l'avion, montrent le bruit de la bombe, mais pas les interjections. Les interjections, elles répondent à quelque chose, elles répondent à un événement. Par rapport aux marqueurs discursifs, l'histoire est encore un peu plus compliquée parce que on a souvent les mêmes éléments qui peuvent avoir des fonctions différentes. Parfois, on a cette fonction d'expressivité et d'émotionnalité qui est décrite comme propre aux interjections. Et parfois, ce sont des éléments qui cadrent le discours, comme ici dans cet extrait de la banque de données Clapy, où le O introduit un discours rapporté.
C'est normal, hein ?
Donc, les marqueurs discursifs, le O ici n'est pas particulièrement expressif, mais il cadre le discours et il se trouve dans une fonction particulière ici, au début d'un discours rapporté. Donc, cette hétérogénéité pose un véritable problème pour une description typologique. Mais ce n'est pas tout, il y a un deuxième problème, et celui-ci concerne la description, à la fois par rapport aux aspects formels et fonctionnels. Donc, d'une part, ce qu'on retient de toutes les descriptions, c'est l'excentricité. Donc, les interjections, c'est quelque chose d'excentrique. Et d'autre part, ils ont relativement peu étudié, donc, soi-disant, parce qu'elles sont rares. Alors, si on regarde un petit peu en détail, cette description négative a été relevée notamment par des chercheurs qui travaillent sur l'interaction. Donc, on parle notamment de la description de non, non-lexical, non-phonemic, non-arbitrary, etc. Ou bien une définition parce qu'elle n'est pas. Et Mark Dingemans de l'Institut de Max Planck à Nijmegen a proposé pour résoudre ce problème, de parler plutôt de liminal signs, hein, des signes de frontière pour tout ce qui n'est pas lexicalisé. Donc, cette ambiguïté par rapport à la conventionnalité, l'accountability, donc le fait qu'on est considéré comme responsable, voire l'intentionnalité, c'est selon lui la caractéristique principale de ces liminal signs entre langage et non-langage. Nous avons également parlé du fait qu'il y a peu de travaux parce que les bruits et sons sont rares. Et là, c'est intéressant de regarder la différence entre rare et marginal. Ces sons sont peut-être marginal, parce que pendant des très longues périodes, pendant des siècles, on a considéré essentiellement le langage écrit, où il y a effectivement relativement peu d'interjections. Mais elles ne sont pas rares dans le sens qu'elles sont typologiquement exceptionnelles. Et juste pour illustration, un petit exemple en allemand, pour lequel, je vous rassure, il ne faut aucune connaissance de l'allemand. Alors là, on a une liste à gauche des interjections prototypiques. Et dans cette liste, on trouve une interjection « pfui ». Cette interjection « pfui », si on interroge la banque de données Folk, qui est la plus grande banque de données des interactions en allemand, dans cette banque de données, on trouve 7 occurrences de « pfui ». Extrêmement fréquent. Par contre, un autre son, le son « pfff », qui n'existe nulle part, ni dans cette liste, ni dans aucune autre liste, ni dans les dictionnaires allemands, il a 400 et quelques occurrences. C'est quand même une différence. Bon, alors, il semble que les interjections nous amènent dans une impasse, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je propose de faire un petit pas en arrière et sortir de la linguistique à proprement parler, et regarder une autre perspective, celle de l'interactionnisme et de Irving Goffman, qui a établi une catégorie qu'il appelle « creators of social situations » ou « response cries ». Donc, ces response cries, selon lui, sont d'une part des responses, c'est-à-dire sont des actes ritualisés, donc non pas des expressions d'émotions comme on les a vues chez Wundt ou Rousseau. Et d'autre part, ce sont des cris, c'est-à-dire l'expressivité reste quand même centrale dans la description. Les response cries, selon Goffman, sont ni langagiers ni non-langagiers, elles ne sont pas vraiment adressées, pas vraiment énoncées par un locuteur. Il dit qu'il faudrait plutôt parler d'une source, et non pas d'un locuteur, et ce sont, comme je disais, des actes ritualisés. Alors, pour donner quelques exemples de ce que Goffman considère comme response cries, j'adore les exemples de Goffman, c'est pour ça qu'il faut que je vous en donne au moins quelques-unes. Alors, donc, une femme qui rate la porte d'un musée se rend compte de son erreur, elle dit « Oups !» et elle fait demi-tour pour, j'espère, sortir du musée. Ou bien, dans le fauteuil du dentiste, quand le petit outil, donc j'ai oublié le nom en français,
la fraise,
commence à vous faire mal, on indique par un cri de douleur que ça commençait à faire mal. Ou bien, dans un casino, une femme âgée, je ne sais pas pourquoi elle est âgée, mais elle est âgée chez Goffman, joue à une machine à sous dans un casino et elle est en train de gagner $20. Et pendant que l'argent tombe dans la petite... Enfin, dans le truc, quoi, la petite coupelle, elle dit « oui !» ou quelque chose de ce genre. Alors, bon, c'est bien joli, les exemples, mais vous avez peut-être aussi envie d'écouter des vrais bruits. Je vous montre un extrait d'une interaction entre enfants et parents qui jouent ensemble sur une tablette. Et là, nous avons un enfant qui réagit à l'instruction qu'a donnée le père. Donc, sur la tablette, c'est un jeu, et l'enfant doit trouver des indices cachés, et puis un indice est caché derrière une araignée.
Encore, l'araignée.
Donc, la capture d'écran, exactement au moment du « aïe », vous montre que l'enfant ne s'est pas fait mal à ce moment-là, hein, donc il n'y a aucun problème à ce sujet-là. et on garde en tête, donc c'est une réponse, et une réponse à une action précise, à une réaction du père à l'instruction. Donc, un acte ritualisé. Deuxième exemple, deux garçons qui jouent au foot et ils réagissent à un but raté, enfin de leur équipe. Hein.
Oh, dommage.
Bon. Vous avez deux pour le prix de un, hein, pff, un au dommage. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel type de réponse que les garçons donnent à ce but raté, mais une réponse qui montre une certaine expressivité. Donc, le concept des response cries est très intéressant, mais l'exemple de l'araignée a montré que l'expressivité est parfois un peu douteuse. Donc, il est vrai que le garçon ne dit que « aïe », mais il le dit, enfin c'est juste un son, mais il le dit dans une situation particulière. Donc il répond à une instruction. Et en analyse interactionnelle, on dit que c'est une séquence d'instructions. Et cette séquence est composée de tours. Donc on a des tours initiaux, des tours responsifs. Ici, on a un tour responsif. Donc ce aïe répond d'une certaine façon à l'instruction donnée par le père. En plus, ce qui n'est pas le cas ici, mais on verra ça après, l'élément peut se trouver à différents endroits dans le tour. Donc, si on regarde par exemple, et là j'arrive quand même un petit peu à mes travaux de HTR pour parler un petit peu, où dans mes travaux de HTR, je me suis intéressée à en français et en allemand. Et si on regarde, on remarque plusieurs emplois bien différents. Là, je parle uniquement des pfff en français. La désapprobation agacée du locuteur à l'égard de quelqu'un, ben, je ne l'ai pas trouvée. Mais moi, je trouvais après une information, une nouvelle ou un événement.
Oh, dommage.
Voilà, c'est l'exemple que vous avez déjà vu. Dans ce cas, ce exprime une évaluation ou un positionnement. Ou bien, on peut le trouver après une question et une requête. Dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est l'annonce d'un certain type de réponse. Ça peut être une réponse dispréférée. Ça peut être une réponse difficile, comme ça peut être un alignement un peu nuancé. Et c'est le cas dans cet extrait. Ouais. Ce soir, tu dois poser. Oui, il faut que je bosse mon russe. C'est ça. Troisième possibilité, on peut le trouver dans un tour long, c'est-à-dire une réponse longue, une explication, une narration, et là, on a l'annonce d'un problème de formulation. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu, le garçon essaye d'expliquer quelque chose, il cherche le prix, il cherche un prix, un chiffre, disons, à donner. Et vous avez peut-être même vu qu'il tourne, il cherche, il tourne sa tête vers la fille qui est à gauche, à sa gauche, et qui finalement intervient et l'aide. Donc, autre exemple pour le « oh » en anglais. Donc, on m'a dit une fois, enfin une anglaise m'a dit une fois, si vous connaissez tout le « oh », vous savez parler anglais. Bon, je ne crois pas que je les connais tous, mais j'en connais certains. Et là, je vous ai mis deux qui semblent quand même assez similaires, mais qui ne le sont pas. les deux O sont en réponse, sont tout, des tout responsifs. Mais dans le premier cas, c'est après une information. C'est le fameux change of state talking pour ceux qui connaissent the heritage. Donc, ils indiquent le O ici indique une compréhension, quelque chose de nouveau, une nouvelle, nouvelle information. Si dans le tour d'avant, dans le tour d'information, on a des observations plutôt négatives, comme dans le deuxième exemple, ou des, ce qu'on appelle des extreme case formulations, quelque chose comme « I hadn't had no pain at all », hein? Dans ce cas-là, le O montre plutôt une surprise qu'une simple compréhension. Alors, pour revenir au Goffman et au response crisis, l'exemple avec les deux garçons a montré, donc tout, là on avait parlé de l'araignée, là on reparle des deux garçons, donc l'exemple a montré que la description du son est intéressante aussi d'une perspective interactionnelle. Tout simplement parce que le pff n'est pas seulement audible, il est aussi visible. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le rejouer encore une fois et regardez ce que fait le garçon avec la chemise blanche.
Oh, dommage.
Bon, je vous ai cassé les oreilles, je suis désolée. Mais à part ça, vous avez vu quelque chose? Non, trop petit, peut-être. Alors, on voit, normalement, on voit qu'il gonfle les joues. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce tableau, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le lire. C'est un tableau de Elisabeth Reber dans son livre sur Affectivity and Interaction, où elle s'intéresse à O en anglais, qu'elle décrit O, O, H. Non? Et avec une description fine, elle a pu relever trois sons différents. Trois sons différents si on prend en compte la prosodie. Donc, des sons qu'on subsume, qu'on considère tous comme O, mais finalement, ce sont trois sons différents, trois éléments différents. Et ces trois sons, ces trois éléments, correspondent à une utilisation particulière dans quatre séquences. Donc, quatre possibilités, seul ou avec expansion, et trois fonctions. Alors, l'idée derrière ce tableau, l'idée derrière ce que je voulais dire, c'est les sons ne sont pas seulement audibles. Enfin, là, on va quand même dans l'audible, mais les sons, tant qu'on les décrit, tant qu'on les transcrit uniquement avec les graphèmes qu'on a à disposition, bah, on manque la moitié. Là, on a un seul O, mais finalement, on a quatre O différents, si on regarde bien. La linguistique interactionnelle est en ce moment en train d'aller un peu en avant avec ce que l'analyse conversationnelle a appelé les vocalisations non lexicales et la phonétique interactionnelle a appelé des sound objects, objets sonores. Lilo Kevalik et Richard Auchin proposent de considérer un continuum. Donc, continuum entre les formes non lexicalisées et lexicalisées. Entre quelque chose comme O ou un, ou entre quelque chose. Enfin, d'un côté et les sifflements de l'autre côté. Donc, entre les deux, on a un large spectre de formes différentes. Donc, selon eux, il y a des formes qui correspondent aux règles phonotactiques d'une langue et les autres hein, qui doivent être ajustées autrement. Donc, la séparation entre la vocalité d'un côté et d'autres modes corporels de l'expression est pour eux discutable. Et cela nous mène aussi à une autre question. Donc, est-ce que ça fait sens de tirer une ligne dans ce continuum entre les formes qui correspondent aux règles phonotactiques et les autres. Est-ce que ça fait sens de tirer une ligne avec d'un côté le langage et d'autre côté le non-langage? Et surtout, si on peut puiser à différents endroits pour trouver le moyen qui correspond au mieux à la situation, à la situation interactionnelle. Donc, là, c'est juste un petit rappel sur le projet, sur les non-lexical vocalizations. On peut en revenir plus tard si ça vous intéresse. Mais, pour rester un peu dans cette idée de Kevalik et Hockney, par rapport à nos bruits et sons, ça veut dire que les bruits et sons ont des affordances différentes par rapport au lexème. C'est-à-dire, notamment, leur interprétation est plus flexible par rapport à l'environnement séquentiel et actionnel. Ils ont sous-spécifié au niveau phonétique. Donc, il faut que certaines caractéristiques soient produites, bien évidemment, mais d'autres peuvent être variables. Par exemple, pour un gémissement, il nous faut une voyelle ouverte. Mais quelle voyelle? Et s'il y a d'autres choses, s'il y a une sorte de fricative ou autre chose avec, ça c'est facultatif. Ou bien pour montrer le plaisir de goûter quelque chose, il nous faut une nasale. Mais est-ce qu'on ajoute autre chose à cette nasale? Et quelle nasale? Ça peut être variable. Et troisièmement, il y a un lien inséparable, on l'avait déjà dit, et je crois que je vais le redire encore plusieurs fois parce que c'est important pour moi. Il y a entre la vocalité et d'autres modes d'expression. Donc, les vocalisations, les objets sonores, les bruits et sons sont obligatoirement multimodales. Donc, ça veut dire corporéité et vocalité entrent en jeu dans la construction sociale. Plus précisément, d'une part, la fonction d'un son ou d'un objet sonore dépend de son placement dans la séquence, ou bien il dépend des autres activités qu'on fait en même temps qui ont précédé. D'autre part, le corps offre une très très grande possibilité de produire des sons. Ça, on a déjà vu et j'en ai encore d'autres pour plus tard. Ce qui veut dire qu'il y a certaines caractéristiques phonétiques qui dépendent plus de l'activité qu'on fait que du système langagier. Donc là, on a par exemple un extrait, enfin c'est pas un extrait, c'est juste une transcription et deux images de l'article de Lelo Kevalik et Richard Hockney. Sur une personne qui travaille, qui fait un travail dur, qui gémit pendant ce travail. Donc, ce gémissement, le son qu'elle fait, est lié à son activité. Quand on lève quelque chose de lourd, on ne peut pas chanter la 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 en même temps. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. En même temps, et Kevalik insiste sur ce fait-là, c'est intéressant que le son s'arrête au moment où la brouette s'arrête. Et vous voyez là, j'espère que vous pouvez voir, la pelle est aussi lourde parce qu'il ne s'est pas encore débarrassé de la terre qu'il a sur la pelle. Donc, le gémissement n'est pas uniquement lié à l'effort, il est aussi lié à l'activité. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que moi je trouve intéressant, entre d'une part le lien au corps, le lien aux activités physiques, et de l'autre côté, le lien à la séquentialité, le lien à l'interaction, le lien à l'échange. Donc, on l'avait déjà dit tout à l'heure, cette corporéité, ce fort lien avec le corps pour ses bruits et sons, rend les sons visibles et parfois liés à certaines mimiques ou gestes. Donc là, j'ai juste deux exemples pour l'illustrer. Le 1 avec le, je sais pas, voilà, j'arrive pas à le faire, avec le froncement des sourcils. Hein, donc, une expression du dégoût hein, de la thèse de Veronica González-Tema. Ça, c'est un corpus d'espagnol chilien. Je ne sais pas à quel niveau c'est transposable à d'autres langues, hein, mais dans son corpus, elle a trouvé cette expression du dégoût liée au froncement des sourcils. Ou bien, un exemple de mon corpus, où on a un trill non voisé, hein, qui est bien visible ici. Je pense que là, vous pouvez voir le gonflement des joues, hein, qui est lié au désengagement. Donc, tout cela nous montre que la séparation entre le côté vocal et d'autres modes d'expression est au moins à mettre en question. Alors, pour finir, donc, si on revient à Tarzan, il y a certes ce cri de la victoire qu'on peut qualifier de response cry, selon Goffman. Mais il y a aussi ça. Là, ce n'est pas la même chose. Il n'y a aucune victoire là. C'est un cri initial qui sert à appeler Tarzan. Et Tarzan va arriver. Bon, j'ai juste coupé le moment où il arrive. Ça, c'était pas très sympa. Mais il arrive. Hein. Et puis, il y a ça. Là, c'est encore autre chose. Bien d'accord. Là, le cri précède l'action. Donc, il annonce quelque chose. Alors, trois fois le même, plus ou moins, cri, mais dans trois séquences différentes, trois positions différentes, et chaque fois, c'est autre chose. Dans notre extrait du début, hein, avec la fille qui anime son avatar dans le jeu, finalement, c'est pas la même chose, mais on voit aussi que le cri n'arrive pas non plus au milieu de rien. Donc, il permet ici de construire une véritable interaction à travers les avatars et de les doter d'une certaine sensibilité. Et ça, c'est important pour les gens qui regardent ces vidéos, parce qu'il faut se rappeler ici, c'est des gens qui jouent pour être vus. Hein. Ils exposent leur jeu sur YouTube ici, ce sont des Let's Play vidéos. Et donc il faut que les spectateurs puissent comprendre la situation et ils puissent éprouver un certain plaisir, parce que sinon, bah, ça ne sert à rien de le regarder. Voilà. Donc, oui, la linguistique devrait s'intéresser au bruit et au son. Parce que ils entrent dans la construction d'énoncés ou bien ils forment des énoncés à eux tout seuls. Ils nous permettent d'explorer la frontière entre interaction et être en présence d'autres personnes. Hein? dans la terminologie de Goffman, entre focused et non-focused interaction. Et puis, il nous incite à repenser le lien entre corps et langage et de tenir compte de la corporéité de la parole. Ça, c'est quelque chose qui m'est particulièrement important. Voilà. Et pour terminer en beauté... Voilà. Merci de m'avoir écouté.